Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour, bienvenue à la Conspiration des planches. Merci de nous rejoindre pour vous réchauffer à nos planches diverses et variées. Alors, aujourd'hui, on va pratiquer nos langues, puisqu'on ira d'abord au Théâtre National pour Play Loud de Falk Richter. On ira ensuite au Tanner voir pourquoi Selma Alaoui a décidé de dire « I would prefer not to ». Et puis, on rejoindra Elisabeth par téléphone qui nous parlera de Manneke, une pièce plutôt bruxello-zineke-liégeoise avec un accent bien de chez nous. Et puis, on terminera avec Lady Camilla ou une version revisitée de la royauté britannique. Voilà, alors on commence par Play Loud. Est-ce que c'est si loud que ça? Donc c'est, je précise, Falk Richter, un auteur qui était l'invité privilégié du Festival de Liège et dont la pièce Play Loud est maintenant reprise au Théâtre National.
Oui, c'est ça. Donc Falk Richter, on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes, Nurten, avec ses différentes pièces, Dieu est un DJ et My Secret Garden. Ici, il présente au Théâtre National mon coup de cœur du moment, j'ai envie de dire. C'est un spectacle multidisciplinaire avec des artistes belges et allemands. Pour les citer, donc on a Lucie Debay, Cédric Eckhout, Gaël Malleux et ensuite les Allemands Franz Rogowski et la performeuse Anne Tismer. Et donc dans ce spectacle, Falk Richter a créé le texte et la mise en scène avec ses artistes, sur base des souvenirs d'enfance et de l'expérience de chacun, et les films et les chansons qui les ont marqués dans leur parcours. Et on se retrouve en fait dans un spectacle multidisciplinaire, donc avec vidéo, avec chansons, musique sur scène, une mise en scène qui bouge assez bien, et tout ça est fait sous forme de chansons. Voilà, on a 12 tracklists sur le CD, on va dire. Et on a quand même le bassiste de Ginzu sur scène qui anime tout ça avec une musique, voilà, c'est play loud, c'est rock et par moments c'est aussi tout en douceur, mais c'est quand même assez bien rock. Et pour moi c'est une des forces de cette création, toute l'interprétation des comédiens justement, ils vont chanter mais avec une voix de hard rock par moment ou tout en douceur sur du Radiohead qui est, pour moi, voilà, c'est une interprétation à 300%, vraiment parfait. Et le thème de la pièce, en fait, c'est Falk Richter traite du sentiment amoureux dans toutes ses contradictions. Donc, c'est un exemple de texte, c'est « Tu pars ou tu restes, qu'est-ce que tu veux à la fin ? Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que tu veux ?» Et voilà, et on se retrouve vraiment dans des discussions qu'on connaît tous, qu'on a déjà tous vues un peu partout, mais finalement qui sont très très bien exprimées, je trouve, dans cette façon de mettre en scène. Et voilà, il parle aussi de la solitude au sein de nos sociétés occidentales, donc ce besoin de fusion, même quand on est en groupe et qu'on se sent seul, donc c'est toujours un sentiment un peu ambivalent, et on le retrouve très très fort dans la mise en scène, puisque à certains moments les comédiens se mettent à rouler tous ensemble, à s'emmêler dans les gradins. Donc juste pour dire un mot, pour que ce soit un peu plus visuel, il y a cette scénographie de Catherine Hoffman. Donc la scène est partagée la scène est en gradin, en fait. Et voilà, il y a 5 petits étages avec plein d'ours en pluche, avec des cassettes vidéo, avec des instruments de musique. Et voilà, et les comédiens vont se déplacer partout sur la scène et souvent en espèce de mêlée. Voilà, ils rampent les uns sur les autres. Je trouve que c'est un peu peut-être ce sentiment de vouloir être les uns sur les autres, d'essayer de fusionner, voilà, tout simplement, pour ne plus être seul.
C'est très physique et pas vraiment linéaire, alors.
Voilà, c'est très physique, pas du tout linéaire, pas du tout. Et je pense qu'il y a aussi une force dans ce spectacle, c'est que le spectateur peut vraiment créer son spectacle. Chacun va voir quelque chose de différent. C'est toujours le cas au théâtre, on le sait bien, mais ici encore plus, parce qu'il se passe plein de choses différentes. Par moments, les images vidéo, parce qu'on a trois grands écrans, en fait. Les images vidéo peuvent un peu détourner l'attention parce que voilà, il y a la vidéo, il y a le décor sonore qui va avec la vidéo, il y a la musique sur scène, le texte, les comédiens qui font différentes choses à droite à gauche. Donc ça peut d'une certaine façon détourner l'attention et d'une autre façon, je pense que ça permet aussi au spectateur de décider, il regarde l'ensemble ou il regarde ce coin-là de la scène ou un autre et finalement de voir un peu ce qui l'intéresse.
Mais on est dans le théâtre contemporain, donc c'est un texte fragmenté, comme on dit, c'est des scénettes, c'est pour ça qu'il fait une tracklist, c'est la forme du texte, c'est 12 chansons on peut dire, mais aussi 12 scènes avec des titres, hein. Donc chaque titre, et on est vraiment dans l'esprit d'une nuit insomniaque parce qu'ils sont tous en pyjama, ça déboussole au premier instant, et on nous met dès le début dans une fausse piste de douceur, et puis on va basculer dans quelque chose de complètement trash, parce que ce sont des histoires individuelles, on parle des souvenirs des parents forcément qui sont foireux, et on sait que Falkrichter travaille sur l'autofiction, donc entre la réalité et la fiction. Ce qui est remarquable, Sophie, je ne sais pas si tu l'as ressenti, il a une écriture ultra contemporaine, enfin, on a l'impression qu'il parle, il arrive à... C'est une écriture de théâtre travaillée, mais elle est tellement réaliste, il a la quarantaine, Falkrichter, il est dramaturge à la Showbühne de Berlin, il a tout un univers. Catherine, on l'avait vu dans Unterreise, il faisait tout le domaine de l'entreprise. Ici, il vient dans l'intime, et c'est un de ces artistes qui s'imprègne du monde actuel, baigné dans le virtuel, dans YouTube, dans tout ce trip-là, et il arrive à faire une écriture contemporaine pour aujourd'hui. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire, dans 50 ans, est-ce que cette écriture d'aujourd'hui qu'on voit, est-ce que ça tient, celle qui sera avec le net et tout? J'espère que je vivrai jusque-là pour voir un peu la chose.
On sera de plus en plus dans le zapping, donc il y a des chances que cette forme-là plaise encore très longtemps.
Mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment finalement un sujet qui nous parle. Enfin, ça dépend un peu comment on ressent les choses, mais qui nous parle en tant que vieux enfants, parce que c'est ce qu'on retrouve un peu dans la pièce, cette nostalgie de l'enfance, le pyjama, les peluches, etc.
Et les parents à la masse, les histoires d'amour qu'on n'arrive pas à régler.
Ces choses qui nous ont marquées et avec lesquelles on vit, et on essaye d'affronter la vie avec ces petites armes-là.
Et c'est surtout qu'ils fonctionnent entre le récit et le jeu. Donc des fois, ils font des scènes de jeu, et puis après, ils font des récits avec des commentaires, et on est l'impression dans une nuit, 4 heures du matin, une nuit à la masse qui prend la tangente, des parfums frôlent le pathétique, et tout le monde a connu ces nuits blanches où ça foire en crise de nerfs, en couple ou crise de famille.
Voilà, donc c'est un coup de cœur à voir au Théâtre National.
À voir jusqu'au 5 mars, et c'est sur théâtrenational.be.
Voilà, maintenant on passe au Théâtre des Tanneurs pour une nouvelle création de Selma Alaoui qui nous avait déjà pas mal impressionné avec une autre pièce dans le festival Première fois des Tanneurs.
C'était Anticlimax, texte vraiment crade de Werner Schwab, une famille tarée là aussi. Et ici, I Will Prefer Not To, c'est aussi un coup de cœur et dans un autre genre, mais aussi on est dans la décadence pas du monde ou des gens, mais version, on va dire, début du 20e. I Will Prefer To Not s'inspire de deux auteurs, Melville et Witkiewicz. Alors Melville, 1800 et quelques, et Witkiewicz, il meurt en 1930. C'est déjà la première audace de cette jeune fille de prendre un texte qui n'est pas d'aujourd'hui, mais de s'intéresser à l'époque et de la réécrire ou d'en faire quelque chose. Selma Alaoui a voulu faire un texte sur une pièce en tout cas sur la mélancolie, qui est très bien daté dans l'histoire de l'art et du théâtre, et elle a voulu un peu le ramener ici en contemporain. Alors elle a pris Witkiewicz, qui est dans une famille bourgeoise. Bon, il faut savoir, Witkiewicz est un auteur complètement à la masse, complètement halluciné, peintre, photographe, philosophe. Il cherchait les formes nouvelles en peinture, il était pris dans le mystère de l'existence. Forcément, il s'est suicidé en 39, avant la guerre. Donc
ça forcément.
Mais il faut voir l'œuvre, il est halluciné. Il faut savoir que toute l'œuvre de Witkiewicz est traduite par Alain Van Cruten, qui a été prof ici à l'ULB. Et lui et Melville, on les considère un peu des existentialistes absurdes, voire grotesques. Il y a quelque chose de très baroque dans son écriture, et c'est très rare de vraiment bien le mettre en scène sans tomber juste dans une simple farce. Et ici, Selma Alaoui le réussit très bien. D'abord, elle a un casting terrible, Et enfin, elle décloisonne les familles théâtrales parce qu'on voit Anne-Pascale Clérambourg et Vincent Mine, qu'on les a jamais vus ensemble. On voit Anne-Marie Loeb, qui est une des plus grandes actrices aussi belge, donc d'une autre génération. Et des tout jeunes, il y a un jeune gars qui vient à peine de sortir de l'école. Donc ils sont six. Alors juste pour expliquer l'histoire, on est dans l'idée de base, c'est un château qui se déglingue un peu à la Tchekhov. Les gens sont dans l'ennui. Et il y a Byron, un héros, ou j'ai envie de dire un anti-héros, qui est dans son moi, dans son âme tourmentée, avec sa cousine Dahlia, qui est interprétée par Anne-Pascale Clérambourg, qui elle aussi est dans une âme tourmentée. Là-dedans, on mélange le cul et la cam. Chez Witkiewicz, tout ça roule dans ses pièces de théâtre. Il y a toujours des aristocrates pour prendre des lignes de coke quelque part. Et il y a une décadence comme ça.
On est un peu dans du Sofia Coppola théâtrale.
Oui, mais c'est vraiment, il y a cette idée de fin du XXe siècle, de l'avant-gardiste, un peu d'une maison qui se déglingue comme chez Tchekhov. Mais là, c'est beaucoup plus trash. Que c'est pas l'ennui, mais là l'ennui ils la mettent en rage, quoi. C'est pas une ennui ou un temps qu'on laisse passer. Ils sont dans ce château qui se déglingue. La mère, qui est très c'est la mère de Witkiewicz, une de ses pièces, elle est constamment sous vodka et elle accable son fils. Il y a une de ces violences et des mots crus qui se disent d'emblée. Et donc il y a ce Byron qui est anti-héros, qui avec sa cousine Dahlia, ce sont des amours de petite enfance qui grandit. Et tous les deux sont dans des âmes intranquilles. Hein, on revient dans le soul, dans l'âme, au théâtre. Tous les deux sont des âmes intranquilles. Et là-dedans, voilà, il y a quelque chose de très baroque. Un seul exemple. À un moment donné, Dahlia dit « Je veux un nouvel amour ». Hop, il y a un mec qui passe à vélo dans le coin et hop, le nouvel amour est là. On est dans des trucs complètement ainsi hallucinés. À un moment donné, Byron est assis. Byron, qui est le philosophe des idées nouvelles de l'homme nouveau, du mystère de l'existence qui est complètement dans Witkiewicz, à un moment donné, transforme sa réflexion et trouve que c'est fini l'oisiveté, que peut-être le salut est dans le travail. Et là, il y a un manager qui débarque. Donc, elle a des petites idées comme ça. On est dans un château d'une deux façades de maison avec deux toiles, c'est le paradis Thérèse de Bruegel, des animaux sur une toile, sur une tapisserie, qui fait un décor assez classique. Et dès le début, on est dans quelque chose de complètement loufoque. Elle a voulu faire un théâtre imprévisible, et ça se sent dès le début. Le spectacle dure 2 heures, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer et comment ça va se terminer. Et on voit toutes ces familles, le trio en fait, la mère, la cousine et Byron qui sont ensemble, qui sont... dans une âme tourmentée, et ça va basculer. Alors, il meurt, il ressuscite, il y a de la coke qui passe, le manager est là, il y a un truc, mais complètement baroque, et elle a réussi, même si certains trouvent que bon, le côté mélancolique ou d'âme tourmentée, on a du mal à le retrouver ici, parce que l'homme d'affaires, le manager qui démarre, c'est la nouvelle de Melville, hein, de Bartleby, où un homme est scribe dans une boîte et un jour il décide de dire « I will prefer to not », je ne préférerai pas tout le temps à son patron. Et évidemment, c'est de la résistance passive. Et là, la résistance passive, ça peut tuer un homme. C'est un truc de fou. Quand le gars te répète « I will prefer to not » pour tout, on peut péter un cap, ça peut nous pousser à la folie. C'est pire, c'est peut-être plus dangereux qu'une arme. Et donc, elle a mélangé ces deux histoires avec cette nouvelle et tout l'univers de Witkiewicz. On a l'impression que parfois c'est un peu décalé, et pourtant moi j'ai vu 2 fois, ça se marie très très bien ensemble. En tout cas, elle a mis la barre très haute d'avoir fait quelque chose de Witkiewicz et de Melville, d'avoir pris enfin des textes anciens, on n'a plus l'habitude, hein. Falkrichter vient avec une écriture d'aujourd'hui, et elle a un casting qui tue, comme on dit, donc voilà. Donc c'est original sur le paysage théâtral pour l'instant, et c'est une jeune fille qui a réussi sa deuxième mise en scène avec talent.
Chapeau. Alors, à voir jusque quand ?
À voir en coup de cœur jusqu'au 5 mars au théâtre Les Tanneurs.
C'est mieux que la semaine dernière. Hein ?
Oui.
On va s'écouter un petit peu de musique et on revient juste après.
La conspiration.
Et on s'écoute un peu de jazz avec le Twan Taste Trio qui sera en concert le 2 mars prochain au Jazz Station. Ce sera à 20h30 et le morceau qu'on s'est écouté surtout, c'est U-Turn et ça vient de l'album The End of Certainty.
Voilà, et maintenant c'est le tour d'Elisabeth de nous parler de Manneke qu'elle a vu hier à la Samaritaine et elle va nous en parler par téléphone.
On a enregistré ça ce matin, on écoute ça tout de suite. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Tu es allée voir pour nous Manneke, ça a commencé hier à la Samaritaine.
Voilà, et alors ça se poursuit jusqu'au 12 mars. Alors c'est un spectacle de et avec
Pierre Webrun. Je ne le connais pas, donc j'écorche peut-être son nom. Et je pense qu'il faut même prononcer le titre Menneke, puisque l'objet du spectacle, c'est en fait de nous balader un petit peu dans nos terroirs, à savoir essentiellement Bruxelles et Liège, puisqu'on suit une trajectoire autobiographique en fait de ce jeune comédien qui commence par, qui interprète en fait différents personnages, à commencer par sa mère qui est une tenancière de café extravagante, et puis il y a la grand-mère, la bompa et toute la famille de Liège avec les cousins, etc. Alors c'est un principe de one-man show, café-théâtre. C'est un comédien qui veut y aller, et qui y va, qui passe d'un personnage à l'autre de manière tout à fait classique en changeant un petit peu l'espace, le point de vue. Il nous balade un petit peu dans toute cette famille a des origines tout à fait bruxelloises. La seule chose, c'est que c'est quand même parfois un petit peu forcé parce que il y a un petit menneke au bout de chaque phrase ou à peu près. La mère est effectivement un personnage haut en couleurs, mais c'est comme si on lui avait rajouté un petit peu des couleurs. Elle a cette chien, il faut tout ce qui rentre dans la pièce. Moi, je pense qu'avec trois, on aurait eu assez. En même temps, c'est vrai qu'il y a, comme c'est quand même très autobiographique, on a aussi droit à un petit moment de coming out comme ça. Ce qui ne doit pas être simple à gérer non plus, et ce qui est un peu la surprise du spectacle. Il y a des moments où l'émotion est là, mais elle est très fugace, parce que hop, après on repart dans la performance, je tiens bien mon personnage, j'y vais à l'énergie, et je ne sais pas si c'est le stress de la première ce qui est possible, mais moi j'ai manqué un petit peu de tendresse par rapport à ces personnages.
C'est assez dur quand même ce qu'il raconte, non ?
Oui, bien sûr, on sent que c'est une vie un petit peu trash, comme ça a des côtés un petit peu road movie, où tu as la mère et ses deux fils qui partent avec ses valises et qui passent d'homme en homme, c'est un peu une croqueuse d'homme comme ça. Donc on sent une volonté de gouaille et tout ça, mais encore une fois, est-ce que c'est dû au stress de la première ? C'est vraiment ma question, je peux pas y répondre évidemment, puisque j'étais à la première, mais la tendresse par rapport au personnage, qui je pense doit exister, puisque si on met un peu sur les rails une création comme ça, où on se met en scène soi-même, on parle de sa vie, c'est qu'on a quand même pas envie de se démolir. Elle m'a un petit peu manqué, comme des respirations un peu dans ce spectacle. On est un peu dans quelque chose de forcé aussi. Il y a des moments où ça vire un petit peu, pas vraiment scato, mais ça m'a pas semblé utile non plus. Et il y a deux parties, en fait, puisque après cette espèce de saga familiale comme ça, où on passe de Bruxelles à Liège, finalement, il nous campe la vie d'un café à Molenbeek, où donc on a d'autres personnages qui arrivent, puisqu'on peut imaginer le Molenbeek aujourd'hui, maintenant, on y parle autant de Allah que de Tintin, et donc Tintin est un peu le fil conducteur de cette deuxième partie du spectacle qui est plus sur mode de sketch. Mais malheureusement, c'est un petit peu la même manière de jouer qui intervient, etc. Et là, on part vers le sketch et des choses un petit peu, un peu forcées. Voilà.
La mise en scène, comment est-elle ? Elle est sobre ? C'est lui qui se met en scène lui-même ?
Non, il est mis en scène par Philippe Laurent. Et donc, en fait, la mise en scène est on ne peut plus sobre puisqu'il y a juste une chaise. Donc, c'est vraiment le principe du stand-up, le comédien qui passe d'un personnage à l'autre. C'est vrai que sur des petites scènes comme à la Sama, ça s'y prête bien. Il n'y a pas énormément d'espace, on ne peut pas indiquer tout. Donc, il y a des moments où il mime, mais évidemment, quand on est dans les cafés, on imagine, on voit la mer derrière la pompe à bière, on la voit très, très bien. C'est un jeu assez physique aussi. Donc, cette mise en scène est assez sobre. Utilise un petit peu le décor naturel de la Samaritaine.
C'est un spectacle long ?
C'est un spectacle long, d'une durée normale. Enfin, ce qui m'a semblé moi un tout petit peu longuet, c'est le deuxième sketch comme ça, où au bout d'un moment, on sent qu'on tire un petit peu sur les ficelles qu'on commence à connaître. C'est une formule classique. C'est pas un spectacle court non plus. J'ai pas regardé ma montre, mais ça doit faire quand même bien.
Ce qui est bon signe, généralement, aussi, quand même.
Oui, non, c'est sûr que la tension est liée. C'est juste, moi, encore une fois, j'ai manqué un petit peu de cette tendresse par les personnages, des temps de pause pour nous laisser respirer. respirer un petit peu pour suivre dans ses méandres et surtout pour se laisser toucher. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver avec le spectacle? Est-ce qu'on va passer de quelque chose d'un petit peu moins sketch vers quelque chose d'un petit peu plus j'assume la tendresse que j'ai pour cette mère un petit peu particulière, ce qui permettrait à mon sens de nous en faire profiter encore plus, parce que il y avait vraiment des moments d'émotion qui arrivaient, mais c'était quand le personnage devenait simplement lui-même et devenait tout simplement Pierre. Donc voilà.
Et c'est à voir donc jusque...
Alors, c'est à voir jusqu'au 12 mars à la Samaritaine, donc il y a ce petit café-théâtre des Marolles. Alors, c'est un spectacle tout indiqué, évidemment, pour y parler de Meneke, de Pei, de Mei, enfin, toutes sortes de choses comme ça. C'est aussi un spectacle qui se veut un petit peu d'actualité, puisque, encore une fois, c'est une balade dans nos terroirs. On a ce Bruxelles comme ça, qui était un mélange naturel de substrat flamand, on va dire, et se parler tout à fait... oui, voilà, tout à fait spécifique, mais qui m'a semblé un petit peu forcé. Je trouve ce côté forcé un peu dommage. Il y a moyen d'aborder la chose, je pense, autrement.
Merci Elisabeth, à la semaine prochaine.
Mais volontiers, passez tous une bonne semaine et profitez bien des beaux spectacles.
Voilà, merci Elisabeth. Alors maintenant, on part dans un tout autre genre au Théâtre des Galeries avec Lady Camilla de Pascal Vrébos.
Aha.
L'idée de départ de ce Lady Camilla, c'était de s'inspirer du côté vaudevillesque de cette histoire de ménage à trois entre le prince Charles, la princesse Diana et évidemment Camilla. Malheureusement, c'est assez peu pour intéresser un public pendant une heure et demie. Voilà, finalement, moi j'attendais une pièce qui retourne cette saga hollywoodienne comme une crêpe, qu'on s'en moque vraiment, qu'on en fasse ressortir les côtés absurdes, aussi de la couverture médiatique qui a eu lieu à l'époque de la mort de la princesse Diana, de l'énormité aussi d'avoir construit ce personnage comme un mythe, quasiment comme une sainte. Rien de tout cela, c'est juste une pièce ultra classique qui ne fait que rappeler la rencontre entre le prince et la princesse et puis la présence omniprésente de la maîtresse Rottweiler, comme tout le monde l'a appelé dans la presse britannique. Voilà, donc c'est assez peu intéressant. On n'y apprend rien de plus que ce qu'on en a lu dans tous les magazines People et toutes les biographies qui ont été écrites à l'époque par les ex-majordomes et compagnie. Voilà, heureusement, la mise en scène de Fabrice Gardin ajoute peut-être un côté un peu rock'n'roll à la mise en scène, à cette histoire, avec aussi une scénographie très épurée qui rend un petit peu le manque qu'il y a chez tous ces personnages, donc le manque d'amour pour le prince Charles qui n'a pas été aimé, par une reine Elisabeth d'ailleurs jouée formidablement par Louise Rocco, encore mieux que Hélène Mirren dans The Queen.
Ah justement, j'allais y revenir, mais vas-y, continue.
Et puis le manque d'amour et le manque de mari pour la princesse Diana. Voilà, donc peut-être quelque chose dans cette scénographie.
Qui joue Diana ?
Alors c'est Stéphanie Van Vive qui joue Diana avec une perruque absolument ridicule. Bon, c'est vrai que c'était un trait caractéristique de Lady Di, hein, cette mèche comme ça, blonde, ce regard un peu timide. Mais voilà, on est dans la caricature et le prince Charles, c'est Nicolas Beuys qui joue ça et qui le joue de manière très froide et très autiste, un peu artificielle aussi. Et Camilla, c'est Ingrid Eiderscheidt qui est là aussi plus hystérique qu'intéressante. Voilà, donc...
Donc on n'a pas la même profondeur justement que dans le film The Queen de Stephen Frears.
Absolument pas. On est dans la superficialité, l'artificialité d'une histoire archi connue dans un texte qui n'apporte absolument rien de neuf. Voilà, moi je vous conseille plutôt d'aller au festival performatique dont va nous parler d'ailleurs Nurten.
Oui, et heureusement ou malheureusement, il n'y a pas d'histoire de princesse dans Performatique. Festival de la performance organisé par le CAI Théâtre, 5e édition et 2e édition, ils se sont mis en réseau avec différents lieux bruxellois, le Wills, les Beaux-Arts, le Burskober, pour faire un festival de la performance qui est très rare en performance, va rejoindre les disciplines. On a l'habitude de voir la performance dans les galeries, galeries, dans les musées et la performance dans les arts de la scène, théâtre, danse. Et tout ça se mélange peu. Et en fait, ils ont fait un croisement de ces disciplines pour enfin ça se partage. Par exemple, Chris Verdon, qui est un artiste en résidence au CAI Théâtre, un artiste de théâtre, va proposer à la raffinerie Charleroi Danse une exposition, installation un peu théâtrale sur l'univers de Kafka. Et par exemple, une plasticienne Gonzalez, qui ouvre Dominique Gonzalez Foster, va présenter un spectacle. Donc c'est un peu que chacun change un peu de ses disciplines. Alors je le dis tout le temps, la performance, c'est l'art du risque, hein, l'art de l'instant, ça passe ou ça foire, mais c'est très intime, et on n'est plus dans la performance violente comme on connaissait chez Fabre ou l'actionnisme viennois ou Abramovitch, qui eux font des performances limites. Quoi qu'il en soit, il y a toujours ici cette idée d'expérience. Par exemple, le collectif Deep Blue accueille des gens dans un hôtel, un spectateur à la fois dans une relation intime dans une chambre d'hôtel. Il y a une Finlandaise qui fait une performance à City 2. Elle est élégante, elle va faire ses courses dans un centre commercial hyper populaire avec un sac transparent rempli des billets d'argent. Donc on voit des euros dans un sac transparent et on voit le regard des passants. Elle rentre dans des boutiques et tout. Là où elle a fait cette expérience, tôt ou tard, on est venu la chercher parce que ça dérange l'ordre social et les codes, et donc la sécurité lui est venue. Elle dit, vous n'avez pas le droit de vous promener avec des billets visibles. Donc il y a vraiment un trouble qui se met dans la performance. Un des performeurs danseurs à suivre, c'est Ivo Dimchev. C'est un des artistes assez limites, un bulgare qui vit à Bruxelles, qui était danseur chez Fabre. Je vous le conseille vraiment parce que lui, on est dans cette performance transgenre, homme-femme, qui dépasse des limites. Il est là aussi. Il y en a plein d'autres. Et alors, la soirée finale, le 22 ou le 4 mars, c'est une soirée DJ, VJ, avec un collectif d'artistique. Enfin, il y a une vingtaine de performances. Il y a beaucoup de conférences, lectures. C'est très fun pour l'instant. Et ça vaut la peine. C'est vraiment là, on est dans la curiosité et l'expérimentation totale. Voilà, Performatique 2011, du 24 au 5 mars. Ça commence jeudi.
Eh bien, voilà qui vous fait un programme très chargé, avec plusieurs coups de cœur cette semaine. Je vous rappelle, allez voir Play Loud de Falk Richter au National, ou I Would Prefer Not To au Théâtre des Tanneurs, et puis aussi Manneke, évidemment, à la Samaritaine. Voilà, merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, et je voudrais profiter également pour rappeler que dès le jeudi midi, vous retrouverez en podcast cette émission sur le site de Radio Campus, www.radiocampusbruxelles.org, et également sur demandezleprogramme.be. Belle journée à vous et à très bientôt. Conspiración.